RMC entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les poteaux. Il y a quelques jours, les Français ont remporté leur premier match du championnat des nations en s'imposant à Brisbane en Australie, 42-26. Un match rassurant après la courte défaite en Nouvelle-Zélande. Un match aussi à deux visages qui nous permettra peut-être de tirer quelques conclusions avant de nous projeter sur le dernier match de l'été, le Japon, la semaine prochaine. On va en discuter avec nos invités. Et pour revenir sur ce match des Bleus, j'accueille Arthur Jean. Salut Arthur.
Salut Roxane, salut Pascal, salut tout le monde.
Bonjour.
Et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, tu viens de le dire Arthur. 65 sélections avec les Bleus au compteur. Pascal Papé, notre invité aujourd'hui. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Bon messieurs, on va pas revenir sur le match en tant que tel parce que ça a été longuement fait un peu partout dans les médias. On enregistre ce podcast, on est mardi 14 juillet, donc c'est vrai que le match était il y a 4 jours. Mais on va commencer peut-être par ce qui vous a le plus plu et le moins plu dans cette rencontre. Pascal, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette rencontre face aux Australiens samedi matin?
Moi j'ai aimé le match dans son entièreté. Dans le sens où, pour moi, on n'a pas forcément vu deux visages de l'équipe de France, mais plutôt une équipe de France qui est capable, après avoir subi, d'accélérer et de mettre la main sur le ballon et de montrer qu'elle était supérieure à l'Australie, mais avec des difficultés en première mi-temps. Mais je trouve qu'on a tendance à pas aller trop loin dans la première mi-temps, alors que quand même il y a eu du boulot qui a été fait, j'ai trouvé moi, et que effectivement le banc a fait un travail après, a fini le travail de très belle manière. Mais moi je suis plutôt en train de me dire que cette équipe de France, elle a eu un beau visage et pas forcément deux visages, parce qu'encore une fois, les Australiens, c'est pas, vous avez vu la qualité du jeu qu'ils sont capables de mettre en place, notamment sur les 40 premières minutes. Et ça, il ne faut pas le négliger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont mal classés sur le ranking, mais ça reste une équipe qui est ultra bien organisée, avec beaucoup d'athlètes à l'intérieur du jeu, et je l'ai trouvé assez intéressante en première mi-temps. Et l'équipe de France, même si on était mené à la mi-temps, j'ai trouvé qu'elle avait quand même fait le dos rond, et on aurait pu prendre plus cher. Voilà.
Arthur, tu es d'accord avec Pascal? Toi aussi, tu as trouvé que c'était une équipe de France avec visage et plutôt performante.
C'est clair qu'il y a une montée en puissance, très clairement, sur ce match-là, parce qu'il y a une grosse entame des Français. En fait, on a eu un peu affaire aux habitudes des deux équipes, c'est-à-dire une équipe de France qui entame très fort ses matchs. L'Australie n'est pas rentrée dans les 22 de l'équipe de France jusqu'à à peu près 10 minutes, je crois. Il y a cet essai en force de Meafou qui arrive très tôt. Et après, effectivement, ça a été plus compliqué parce que le pack australien a pris le dessus sur le pack français. Là où tu disais, Pascal, les entrants ont fait beaucoup de bien plus tard. La première ligne a été en difficulté aussi. Et c'est surtout là, en fait, où ça a changé dans le déroulé du match. C'est que donc, les colosses australiens, entre guillemets, nous ont fait du mal en première mi-temps. Le talonneur Painga Amosa, l'ancien joueur de Montpellier, a été excellent et rentré très tôt, d'ailleurs. Et en fait, après, on a vu cette équipe de France un peu en mode diesel qui est montée en puissance et qui s'en est revue plutôt à son jeu de trois quarts avec une volonté d'envoyer le ballon très vite sur les côtés. Et c'est là aussi où les Bleus n'ont pas réussi en première mi-temps. Beaucoup de ballons perdus justement dans ces zones, dans les 5 mètres au bord des touches. On a vu des lancements de jeu très intéressants avec beaucoup de potentiel. Et au final, des petits ballons tombés, des petites scories. Et c'est ça aussi qui nous a porté préjudice en première mi-temps. Mais c'est Yoram Moefana qui le disait, je crois, à la mi-temps, on a pris une soufflante, donc il y a eu vraiment un changement de visage, moi je trouve, du coup, entre ces deux mi-temps-là, avec vraiment beaucoup de petites fautes en première et après une espèce de grosse réhabilitation en deuxième période.
Parmi les choses que tu as aimées en première période, si on veut aller un peu plus dans le détail, ce serait quoi que tu mettrais plus en avant?
Il y avait une petite curiosité dans cette composition avec notamment Romain Tamakandis et Mathieu Jalibert en 15. On les avait déjà vus associés en 10 et en 12, fut une époque. Là, pour le coup, je veux dire qu'on n'avait pas beaucoup de doutes sur la forme actuelle des deux joueurs. Mathieu Jalibert, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, peut-être même l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Romain Tamak finit très fort la saison avec Toulouse. L'idée, c'était de voir comment ils allaient être associés. Et pour le coup, il y a eu ce système, donc qui a déjà été vu pendant le tournoi Destination, avec Mathieu Jalibert en 10 et Thomas Ramos en 15, les deux un peu interchangeables au fil des combinaisons et des contextes dans ce match-là. Et ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire que Mathieu Jalibert est venu s'intercaler de nombreuses fois pour lancer les offensives. À l'inverse, Romain Ntamack a beaucoup plus géré. On l'a vu notamment distribuer des jeux au pied assez intéressants, très précis. Et c'est là où ça a été intéressant aussi de voir comment les deux pouvaient jouer ensemble. Et ils ont été très convaincants, donc ça donne beaucoup de force à Fabien Galthié pour la Coupe du Monde en 2027, en prévision de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'avec Thomas Ramos, Romain Ntamack et Mathieu Jalibert, il y a un triangle offensif qui peut mener le jeu et qui est très intéressant, à voir comment ça s'articule au fur et à mesure des retours, évidemment. Mais c'est quelque chose qui a été super intéressant sur ce match-là, et il y a eu vraiment une comparaison à faire entre l'axe 9-10-15 côté australien et l'axe 9-10-15 côté équipe de France, je trouve.
T'es d'accord avec ça, Pascal ?
Ouais, bien sûr. Après, encore, enfin là, c'est un problème de riche hein, pour moi. Hein, quand t'as Jalibert et Ntamack, et même s'il y avait eu Ramos, il faut faire jouer les trois ensemble. Hein, moi, j'ai aucun souci avec ça. Il y a déjà eu Ntamack et Jalibert en 12, ou Jalibert en 10, Ntamack en 12, et Ramos en 15. En fait, quand t'as des joueurs comme ça, le simple problème que tu as, c'est de te gratter la tête pour dire, bon, bah, comment on fait pour les... Où est-ce que je mets qui, à quel poste ? Voilà, ce que j'ai préféré regarder, c'est vraiment les débuts de Moses Aloë-Émile, qui est un pilier qui joue à gauche et qui joue à droite. Et ça m'a, entre guillemets, c'était l'interrogation que j'avais, parce que justement, on manque un petit peu de joueurs capables de pouvoir jouer à gauche et à droite. C'est une aubaine, hein, quand tu es pilier, de pouvoir jouer les deux, parce que Moses, il y a une formation de droitier. Et maintenant, il joue à gauche et il peut jouer aussi à droite. Hein. Il l'a fait avec le Stade Français récemment.
Ah, surtout quand tu vois le manque qu'on a à droite.
Voilà,
à
c'est ça. Donc ça c'est voilà pour moi où j'avais un petit peu l'interrogation, c'était de découvrir Moses au niveau international. Voilà, effectivement, la mêlée, elle a pas été conquérante comme en deuxième mi-temps. Mais par contre, j'ai trouvé un joueur mobile. J'ai trouvé un joueur qui était capable de rentrer vite dans un système défensif, qui était capable de rentrer dans les potes offensifs, qui est un joueur intelligent, qui est un joueur puissant. Voilà, moi, je trouve qu'on a découvert un pilier de plus dans l'arsenal qu'on peut avoir dans le rugby français. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, pour un premier match, je trouve que c'était intéressant, quoi.
Ouais, c'est ça, il faut remettre en contexte aussi le fait qu'on est sur un premier match pour Moses Aloë-Émile, qui est encore jeune.
L'Australie en plus.
Et contre l'Australie en plus, qui est quand même pas un adversaire à prendre à la légère, très clairement. Là où après la première ligne a été un petit peu en difficulté sur cette première mi-temps, malheureusement ça a coïncidé avec le fait que les Australiens mènent au score, nous roulent un peu dessus en mêlée, etc. Et l'entrée des remplaçants justement était assez impressionnante. Pour revenir un petit peu sur peut-être sur les débuts d'un joueur, justement, c'était la première sélection d'Aaron Grandidier aussi, qui a été... assez effarant dans sa sérénité, dans sa maîtrise. On le rappelle, un doublé, et surtout, j'ai trouvé, c'est quelque chose qui peut manquer et qui a pu manquer ces dernières années à l'équipe de France, une domination dans le jeu aérien. Alors peut-être que l'Australie n'est peut-être pas la meilleure nation mondiale en la matière.
C'est sa force.
Mais quand il était impressionnant sur ce domaine-là.
C'est sa force. C'est vraiment, excuse-moi de te couper, mais Aaron Grandidier, c'est vraiment un joueur aérien. C'est sa force, en fait. C'est aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, je crois que c'est l'ailier qui gagne le plus de duels aériens dans le top 14. Moi, pour avoir eu quelques infos de l'équipe de France, je sais que c'était un profil qui était regardé depuis longtemps, et notamment quand on a eu souffert contre des équipes comme l'Afrique du Sud sur cette conquête aérienne avec les kickbox, etc., et les jeux de pression et de récupération aérien. C'est un profil qui est vraiment à l'étude depuis un moment. C'est un athlète, vous avez vu la dimension physique qu'il a pu avoir et athlétique qu'il a pu avoir sur le match, sachant qu'en plus les Australiens, c'est un domaine culturel où ils dominent vraiment beaucoup ce système de jeu aérien. Ça vient aussi de tous les sports qu'ils peuvent avoir à côté, qui sont vraiment des sports où justement il y a du duel dans les airs. Et j'ai trouvé qu'il avait été vraiment à son aise et même presque dominant. Et je trouve que aujourd'hui, au même titre que Moses Aloë-Émile, on va encore empiler un ailier qui a une sacrée, un sacré potentiel et une sacrée carrière à faire au niveau international. Donc en fait, encore une fois, là je suis en train de me dire, quand il faudra faire les choix, le seul problème, ça va être de se gratter la tête et de se dire comment on va faire. Voilà. Pour moi, je suis d'accord sur lui, c'est pas une bonne surprise, parce qu'encore une fois, quand tu vois comme il domine en top 14, notamment sur ces duels-là, tu te dis, bah, ouais, il ne s'est pas manqué au niveau international et ça donne encore un profil hyper intéressant au 15 de France. Quoi.
En plus, ouais, ça fait une alternative supplémentaire pour les ailiers avec le 15 de France, en sachant que c'est un joueur qui marque très peu en top 14, pour un ailier, je veux dire, qui en 40 matchs top 14 et à 10 essais, qui marque un doublé sur ce match-là. Alors, si tu ajoutes ce côté-là en plus, le côté explosivité où il a fait très mal aux Australiens là-dessus, et en plus, sa sérénité défensive aussi, parce que c'est aujourd'hui au niveau international hyper important pour un ailier d'être rassurant défensivement.
Bien
pour
sûr.
Le coup, ça aussi, on l'a avec Grand Didier, on l'a avec Atsogbe, donc deux joueurs exceptionnels sur les ailes.
C'est un ancien setiste, hein, donc le duel offensif au défensif, il a dû en vivre plus que de raison. Et forcément, on voit qu'il est à l'aise. En plus, bah forcément, les espaces sont un peu plus fermés. Mais on voit qu'on a un ailier qui est vraiment à l'aise là-dessus et qui domine bien son sujet. Donc là, on a, pour moi, alors bien sûr que c'est des performances qu'il faut toujours être capable de montrer une deuxième fois, une troisième fois. Hein, ça ne doit pas être un one-shot. Mais je pense qu'on a peut-être un futur titulaire à ce poste, sachant que, encore une fois, ben, Louis Bielbarret n'est pas du tout le même profil, mais qui commence à être lui aussi très bon sur le duel aérien avec le travail qu'il est en train de faire là-dessus. Je pense qu'on peut, voilà, on peut avoir, on commence à avoir de sacrées ressources à tous les postes, notamment derrière, quoi.
On va vivier, ouais.
Ouais.
C'est vrai que parmi les ailiers, on n'est pas en manque. On peut l'écouter peut-être, Aaron Grandidier, qui était très ému à la fin de son premier match avec les Bleus et auteur d'un doublé.
Franchement, même maintenant, je trouve pas trop les mots. Je me sens vraiment, vraiment reconnaissant d'avoir eu cette chance déjà et après d'être ici. Franchement, ça a été un travail un peu acharné sur beaucoup, beaucoup d'années avec un parcours assez compliqué, assez atypique. Donc, je suis tellement fier du chemin. Je suis tellement content d'être là et encore une fois, extrêmement reconnaissant pour mon club de m'avoir donné l'opportunité de m'éclore au rugby à 15. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de fierté. C'est un moment incroyable.
C'est vrai que ça doit être assez incroyable, Pascal, pour ton premier match des Bleus, d'arriver, de marquer un doublé comme ça en Australie. En plus, tu le disais, toi, tu as joué deux fois en Australie, si je ne me trompe pas, dans ta carrière, avec
oui,
les Bleus.
Oui.
C'est pas anodin quand même d'aller s'imposer là-bas.
Non. Alors, oui, bien sûr, l'Australie, en plus, en Australie, c'est toujours très compliqué. Nous, on est enfin... À l'époque, on était aussi en fin de saison, donc toujours plus fatigué que. Je vais vous dire aussi honnêtement, c'était pas le même niveau. Aujourd'hui, l'Australie me semble un petit peu dans un deuxième ou dans un troisième rang par rapport à l'équipe de France. Nous, c'était plutôt le rang du dessus, ou en tout cas le rang qui était égal avec nous. Donc c'était vraiment des matchs qui étaient très très durs. L'Australien, il amène toujours une dimension physique. Pour moi, ça a toujours été des matchs les plus durs contre les Australiens parce qu'ils sont capables d'aller vite. Et ils sont très denses physiquement. C'est des garçons qui ont une appétence pour la préparation physique, la musculation, vraiment de tous les jours. Et en plus, ils ont la capacité de mettre beaucoup de vitesse dans leur jeu. Donc je peux vous dire que voilà, il faut être prêt physiquement quand on joue l'Australie. Après, moi, quand on écoute le discours d'Aaron Grandidier, là où je trouve incroyable, c'est que il donne une vraie valeur à l'équipe de France et ça fait plaisir d'entendre des gamins parler comme ça de l'équipe de France, d'être quelque part hyper respectueux du maillot et de la chance qu'ils ont eue de porter ce maillot-là. En fait, c'est ça qui va faire que l'équipe de France, un jour, elle sera championne du monde, c'est d'avoir des joueurs comme ça qui sont... qui remettent ce maillot comme une deuxième peau, en fait. Et moi, j'ai été assez touché de son interview d'après-match, où on sent que finalement, ça veut dire quelque chose, l'équipe de France, pour ce genre de joueurs. Et c'est top. Et c'est top d'avoir une génération. S'ils sont tous comme ça, franchement, j'ai envie de dire à Fabien Galthié, c'est cadeau, quoi. Parce que ça doit être tellement facile à manager. Ça doit être du bonheur d'avoir des gamins qui sont... qui représentent la France, et il l'a dit, hein, représenter son pays loin, et puis ça vient valider un travail et un parcours atypique. Je trouve ça génial, quoi.
Et surtout, tu l'as sans doute vu, Pascal, mais Jeff Poirot, après le match, disait quand on voit des gamins à ce niveau-là, on ne peut pas s'inquiéter pour la suite, en fait. C'est pas possible. Quand tu regardes Brobouari, qui a 20 ans, quand tu regardes Gazzotti, qui est très très jeune aussi, qui sont déjà hyper professionnels à ce
niveau-là. Mais bien sûr. Mais en plus, regarde, on va encore faire la finale en moins de 20, là. Je crois que je suis perdu, là. Quel jour on est ?
C'est ce week-end.
C'est le 14 juillet. C'est vrai, c'est férié. C'est pour ça que je le crois dimanche. Mais bon. Non, mais en fait, si vous voulez, on est encore en finale avec les moins de 20. Donc, en fait,
samedi à
18h30. T'es en train de sortir des merdeux avec un potentiel incroyable à l'appel. Et ça, c'est ça, il faut continuer le travail. Le travail, bien sûr que le 15 de France, c'est la vitrine, mais le travail de la Fédération française de rugby avec les clubs, dans les académies, la formation qui est mise en place, il est incroyable, puisque c'est pas un one shot. On n'a pas été champion du monde une fois en moins de 20 et puis après rien. C'est minimum maintenant finale à chaque fois, quoi. Donc ou demi-finale quand on se trompe, quand on fait une mauvaise année. En moins de 20, on fait une demi-finale. Donc, alors qu'avant, il fallait cravacher pour aller en demi-finale. Donc, voilà, il faut pas galvauder tout ce qui est en train de se faire. Et là, encore une fois, moi, je trouve que ça va être... parce qu'on, bien sûr qu'on gagne contre l'Australie, c'est un vrai... pour moi, oui, c'est un match qui compte, hein, vraiment. L'Australie, c'est dur à jouer chez eux. Mais on pourrait se dire qu'on gagne avec presque une équipe 2 quand même en Australie. Vous imaginez, on est à deux doigts de gagner en Nouvelle-Zélande avec une équipe 2. Qui a vu ça aujourd'hui? L'Afrique du Sud aujourd'hui avec son équipe 2, je ne suis pas sûr qu'elle gagne en Nouvelle-Zélande, vraiment. Donc c'est là où il faut qu'on soit aussi, nous, on doit être honnête aussi avec le potentiel qu'on a et on doit assumer ce potentiel. Et à un moment donné, il faut dire oui. On a la capacité d'y aller cette fois, chercher la coupe, et il faut l'assumer. Et tous les jours, comme disait Bernard Laporte, bah, quand tu te rases, il faut se dire qu'on va être champion du monde dans 2 ans, quoi. Puis voilà.
Arthur, on en parlait un peu la semaine dernière quand on a débriefé le match contre la Nouvelle-Zélande. Là, on évoque le potentiel pour être champion du monde en 2027. Est-ce qu'on peut être champion du monde en 2027 avec un déficit? On l'a un peu effleuré tout à l'heure le sujet, mais avec un pilier droit qui est peut-être un peu moins performant. Et je voulais te lancer justement sur la performance de Demba Bamba. Il nous avait déçus en Nouvelle-Zélande. Est-ce que là, il t'a rassuré ou est-ce qu'encore une fois, il a confirmé un peu les doutes qu'on avait sur lui, selon toi?
Alors pour répondre à ta première question, la presse australienne a dit qu'on était favori pour être champion du monde. Donc ça, on peut se le mettre de côté, on peut se le garder et puis on se l'encarde. Non, plus sérieusement, Demba Bamba, le problème, c'est que sur ce match-là, il n'a pas vraiment rassuré, dans le sens où la première période a mobilisé plus des qualités qui ne lui sont pas forcément propres, c'est-à-dire la tenue en mêlée. Avec ses compères de devant, il a quand même été pas mal pénalisé. C'est là où on va dire qu'il est plus inquiétant, parce que le potentiel du joueur, il n'est plus à remettre en cause. Hein. Je veux dire, c'est un joueur très mobile, très puissant, qui, dès qu'il prend la balle, est très explosif. Et il n'a pas réussi à gagner à beaucoup de collisions dans le début du match. Après, pour remettre ça en contexte, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à gagner des collisions en première mi-temps, peut-être Lenny Nouchi et encore. Donc, évidemment, c'était encore un deuxième match assez compliqué pour Demba Bamba. Et je ne suis pas sûr qu'il gagne beaucoup de crédit sur ce match-là, en sachant que des rumeurs de ce qu'on a pu lire, des équipes qui s'entraînent en ce moment pour jouer contre le Japon, le prochain match, apparemment la première ligne devrait juste être complètement renouvelée. Donc c'est là aussi où on voit que peut-être que voilà, Fabien Galthié se dit qu'il y a quand même des solutions crédibles sur le banc. Quand on voit l'entrée de Régis Montagne, de Maxime Lamotte et de Jefferson Poirot, voilà, j'ai envie de dire que Demba Bamba a un peu de soucis à se faire, et pour moi, c'est pas forcément l'alternative la plus crédible, malheureusement, à ce poste de pilier droit.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pascal, de ce rôle qu'a Demba Bamba dans le 15 de France? Est-ce qu'il t'a convaincu sur les deux derniers matchs ou pas du tout?
Moi, c'est un joueur je suis pas convaincu par ce joueur-là au niveau international, parce que évidemment, sa tenue en mêlée, elle est trop aléatoire. Ça, je suis complètement d'accord avec Arthur. Et au niveau international, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas un jeune joueur comme Moses qui découvre le niveau international. Donc, on doit attendre beaucoup plus que lui, ça c'est sûr. Ce joueur-là pourrait avoir une capacité incroyable sur le banc des remplaçants avec un impact, impact player, ce qui pourrait être terrible. Sauf qu'aujourd'hui, je comprends moi le staff de se dire on jette la pièce à chaque fois qu'il y a une mêlée. Ça peut être aussi le point noir de ce profil-là. Le problème, je pense qu'il faut. Je pense pas que ça soit notre talon d'Achille, vraiment le poste de pilier droit. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance à des jeunes comme Régis Montagne. Ils sont super jeunes, ils sont en train d'apprendre le métier. Il faut qu'ils se fassent casser un peu la gueule, vraiment, parce que c'est ce qui va les rendre meilleurs dans le futur. Et franchement, je crois en des joueurs comme ça, vraiment. Qui ont une marge de progression incroyable et qui, avec l'expérience qu'ils sont en train de vivre match après match au niveau international, vont se bonifier match après match. Et La Coupe du Monde, elle est encore loin, entre guillemets, elle est dans plus d'un an. C'est des joueurs qui vont encore beaucoup évoluer physiquement, qui vont prendre de l'expérience. Il faut faire confiance à ça, il faut arrêter de faire tourner, de se dire on va essayer un tel. Je pense qu'il faut positionner peut-être trois droitiers et après bah, leur donner un maximum de temps de jeu pour que derrière ils soient voilà, la garantie de ce poste pour la Coupe du Monde 2027 en Australie. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça soit notre talon d'Achille parce que, encore une fois, on a du potentiel, on a de la capacité, il faut juste maintenant donner de la confiance et de l'expérience. Voilà.
Par ailleurs, c'est bien Tata Fou qui est rentré à la place de Demba Bamba et pas Régis.
Exactement.
Petit erratum.
Exactement.
Qui vous voudriez voir vous sur ce match face au Japon? Alors à ce poste-là plus précisément, après on développera pour les autres.
Bah, c'est compliqué parce que Tevita Tata Fou, en fait, il fait plutôt bonne rentrée, il est pénalisé une fois en mêlée, mais très dynamique et très disponible dans le jeu. Et j'ai peur qu'il n'ait pas beaucoup de minutes dans les pattes, Tevita Tata Fou.
C'est vrai qu'il est souvent blessé. Hein.
Bah ouais, c'est ça. Qui a fait une grosse partie de la saison blessée, qui a très peu joué avec l'aviron bayonnais. Donc en fait, je me demande si actuellement il n'a pas plus le profil d'un super sub, un peu comme tu disais Pascal, comme pourrait l'être Demba Bamba. Donc pourquoi pas redonner sa chance à Régis Montagne, qui n'a jamais vraiment déçu avec l'équipe de
c'est
France.
C'est ça. Moi je trouve que c'est... Arthur, tu as raison. En fait, Régis Montagne, pour moi, la capacité d'attaquer les matchs, c'est Régis Montagne sur un banc... Ça me dérange un peu. Régis Montagne qui attaque un match, c'est sérieux, ça se déplace, ça défend. C'est quand même costaud en mêlée, ça va progresser. Et derrière, amener quelqu'un avec de la puissance comme Tata Fou, là, ça serait intéressant. Mais je pense qu'il faut vraiment être dans cette position-là, de se dire, voilà, allez, on a nos 3-4 piliers droits, on leur donne un maximum de confiance et de temps de jeu. Et je suis persuadé que voilà, ce petit... ce poste où on est un petit peu en dessous en ce moment, bah, finalement, ça va plus se voir avec le temps.
Quel autre joueur vous aimeriez voir, qu'on a peut-être moins vu sur les deux derniers matchs, que vous aimeriez voir au Japon ce samedi, Pascal?
Moi, j'aimerais bien voir Le Garec, quand même. Alors, c'est compliqué, parce que Lucu est le capitaine de la tournée, entre guillemets, enfin, du championnat, et donc c'est toujours compliqué de mettre son capitaine sur le banc, mais Le Garec, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que c'est un joueur qui a un instinct incroyable, qui a du leadership, et qui est capable de bouger un peu de bouger des matchs, d'accord. Donc je trouve que moi j'aimerais le voir plus, en fait. J'aimerais le voir un jour avec une casquette un petit peu de taulier pour voir comment il réagit au niveau international, parce que je trouve que voilà, ça peut être lui aussi encore un lieutenant à Antoine Dupont de grande qualité.
Et comme me le signale
Cyprien Béthou... C'est vrai, Arthur, auteur d'une très grande saison en plus,
ouais, Le Garec. Ouais, Le Garec qui a fait, bon, je dirais pas une entrée fracassante, mais au moins il s'y est filé en défense, et c'est au moins ce qu'on pouvait attendre sur cette fin de match. Non, comme le signalait Cyprien Béthou, notre producteur, à l'oreillette, il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont vraisemblablement pas avoir trop de temps de jeu sur la fin de cette tournée, enfin qui n'auront pas joué une minute. On pense notamment à Théo Fornet, Esteban Capila et ces joueurs-là qu'on aurait bien aimé voir aussi, sauf que le problème, c'est que visiblement, sur le prochain match, il y aura très peu de turnover. Je vous parlais de la première ligne tout à l'heure. Oscar Jégou qui est sorti touché, qui visiblement devrait être remplacé par Kylian Tixeron, qui a fait de très bonnes entrées. Paul Graou devrait aussi entrer sur le banc à la place de Nolan Le Garec. Alexandre Roumat, pareil. À voir Mathieu Jalibert dans quel état il sera aussi, parce qu'il a été préservé. Donc on pense évidemment à ces joueurs-là qui ne vont pas jouer la moindre minute, comme il y en a chaque année pendant ces tournées d'été. Bon, maintenant c'est le championnat des nations, mais on s'entend. Le joueur que j'ai envie de voir, personnellement, bah c'est Lenny Nouchi, en fait. Encore plus de Lenny Nouchi, parce que sur ce match-là, je ne m'attendais pas, en fait, à un tel éclat, sa part. C'est-à-dire qu'on le connaît avec Montpellier, on sait ce qu'il est capable de faire avec Montpellier, et du coup, on est toujours curieux de voir ce qu'il pourrait faire en ayant beaucoup de temps de jeu sur un match international contre une équipe de l'hémisphère sud. Pendant les Six Nations, il avait effectivement joué, mais voilà, on ne l'avait peut-être pas forcément beaucoup vu. Sur ce match-là, quelle activité, 16 plaquages, 16 courses, ça a été le porteur le plus sollicité. En première mi-temps, c'est l'un des seuls qui a sorti la tête de l'eau et qui a pris ses responsabilités. Offensivement, il est capable de créer, il est capable de jouer après contact, de jouer avant contact. Il est extrêmement complet pour un troisième ligne et il s'y file en plus. Donc pour le coup, les Ninouchi, on embrasse Julien Landry, à l'image de sa saison, en fait, a fait un super match contre l'Australie et on a envie de le revoir contre le Japon où là, il pourrait montrer encore plus ses capacités balle en main, notamment.
Pascal, est-ce que tu partages cet avis, toi aussi, Lenny Nouchi? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme impression sur le premier match? Est-ce que tu as encore plus envie de le voir comme Arthur?
Sur le match, là, il n'y a pas de... pas de doute, hein, Arthur l'a bien dit, hein, ça a été peut-être le meilleur Français de la première mi-temps. C'est lui qui a été le plus haut niveau de l'Australie sur la première mi-temps. On parlera pas de sa saison qui pour moi était incroyable. C'est un leader, capitaine de club déjà de Montpellier à un âge, je crois qu'il est très jeune. Donc il doit être de 2004 de mémoire ou 2003 je crois de mémoire. Donc ouais, ça reste des joueurs avec un potentiel incroyable et qui en plus vont être de sacrés leaders. Donc ouais,
2003 ouais, l'Aninouchi, ouais, tout à fait.
Ouais, 2003. Donc ouais, c'est un joueur qu'il faut qu'on voit plus. Je suis d'accord avec Arthur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de moins que des mecs comme François Kroos, comme des mecs qui sont en concurrence avec lui? J'ai envie de dire rien.
C'est ça la question.
Et surtout, qu'est-ce qu'il a de plus? Et là, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Donc, et encore une fois, voilà, la hiérarchie, elle est là, elle est en place. Il faut être patient. Mais quand tu es patient et que tu fais des performances comme il a pu faire contre l'Australie, ouais, j'ai l'impression que ça peut aller vite, quoi.
Peut-être qu'on peut parler un petit peu de la troisième ligne, justement. C'est une bonne transition parce que, comme tu le dis, Pascal, derrière, qui ne sont pas là, Anthony Gelon, François Kroos, Paul Boudéan, Charles Olivon, quand tous ces joueurs ne sont pas là, on s'aperçoit qu'on a quand même une troisième ligne très jeune, très complémentaire, puisque Oscar Jégou, très bon manieur de ballon, travailleur de l'ombre, Marco Gazzotti, un Perse Muraille qui défend, qui a encore fait presque 20 plaquages sur ce match-là, et les Ninouchi très complets, donc ce sont des profils très différents. Comme tu dis, François, qu'est-ce que ces joueurs-là ont envie à ceux qui sont absents, mis à part peut-être moins d'expérience, peut-être un peu moins de leadership, et encore, je veux dire, il va y avoir encore une fois des problèmes de riches, comme tu le disais tout à l'heure, Pascal, et la troisième ligne a été hyper rassurante sur ce match-là aussi.
Ah mais il y a bataille, pour moi il y a bataille à tous les postes. Alors oui, peut-être au poste de pilier droit on est un peu plus en difficulté, mais il y a vraiment bataille à tous les postes, et c'est ça qui... Ça peut être aussi le petit truc en plus qui fait que l'équipe de France sera encore plus performante, c'est qu'il va y avoir une telle concurrence à certains postes que quand tu auras le maillot titulaire ou juste le maillot, il va falloir vraiment te dépasser et te donner à 800%, autrement tu le remettras pas. Et ça, c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir un effectif super homogène où tous les joueurs se tirent la bourre pour jouer, ils sont quasiment du même niveau et que finalement c'est juste le profil qui des fois est différent, pour un sélectionneur c'est incroyable parce que tu te régales, quoi.
Oui, c'est clair que là, tu nous donnes presque envie d'être encore plus vite à la Coupe du Monde pour voir si tout ça va se vérifier, Pascal. C'est vrai que là, maintenant, on aborde le Japon, qui est peut-être un adversaire qu'on craint un peu moins que l'Australie en règle générale, mais qui, quand même, ces dernières années, a montré ce dont ils étaient capables. Cette année, sur cette tournée d'été, sur ce championnat des nations, le Japon compte une victoire contre l'Italie, une défaite face à l'Irlande. Arthur, tu t'attends à quel type de match face aux Japonais? Est-ce que tu penses qu'on est favori maintenant qu'on a dit tout ça? A priori, oui, mais est-ce que tu penses qu'on peut aller s'imposer là-bas?
Oui, en vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus quand on voit cette équipe du Japon. Après, quel style de match auquel on va avoir droit? C'est un peu difficile à dire parce que, en fait, l'équipe de France a ses certitudes. L'équipe de France a son ossature, à voir qu'il y aura quelques ajustements à la marge, comme on va dire. Mais du coup, je pense qu'on va juste poursuivre sur ce qu'on faisait, peut-être en tapant un peu plus fort devant, puisque le pack du Japon, ce n'est pas là où ils sont le plus forts. Mais Fabien Galthié va juste poursuivre dans ce qu'il faisait, en fait, en corrigeant peut-être quelques problèmes. Patrick Arletaz était un petit peu mécontent de certaines phases de jeu. On en parlait tout à l'heure, des petits ballons tombés en première mi-temps ou des choses comme ça. Sachant qu'aussi, il faut le rappeler, il y a eu un carton jaune qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous coûte 14 points, celui de Manimé à Fou. Donc voilà, ça va être des petits ajustements à la marge et on va chercher à améliorer, à aller toucher un petit peu plus la perfection. Je pense qu'il n'y aura pas de secret là-dessus. Les choses sur lesquelles on a été un petit peu moins efficace aussi contre l'Australie et dans une moindre mesure contre la Nouvelle-Zélande, c'est cette défense près des lignes aussi. Je ne dirais pas que c'est facile de la travailler. Après, Pascal, tu le sais bien évidemment mieux que nous, mais la défense près des lignes, Elle arrive parce qu'on n'a pas été capable de défendre au milieu du terrain et d'avoir un alignement qui se replace bien, qui se redistribue bien, qui ne se consomme pas dans les rucks, etc. Donc peut-être sur la circulation défensive, ces choses-là, et aussi sur les rucks, ils ont été des poisons dans les rucks. Les Australiens, ils nous embêtaient vraiment dans ce domaine de jeu-là, surtout en première mi-temps, encore une fois. Fraser McRae, le capitaine, qui a été très bon lui aussi, nous a gratté 3 ballons, lui tout seul. Donc va falloir aussi faire attention à ça, parce que c'est quand même la rampe de lancement de notre jeu, les rucks. Donc si on veut que Maxime Lucu puisse éjecter proprement, il va falloir aussi protéger ça mieux et peut-être adopter un jeu. Et là, contre le Japon, ce serait l'adversaire parfait où les joueurs vont très peu se consommer dans les rucks, des déblayages propres, un joueur qui déblaye, un joueur qui protège, un joueur qui éjecte le ballon. Et tout simplement, et là, on aura tous nos joueurs disponibles sur le front de l'attaque pour lancer des offensives. Et puis, ça peut être une orgie de jeu hein, contre le Japon, hein, très clairement.
Pascal ?
Ouais, non. Après, effectivement, contre l'Australie, on a été un peu en souffrance sur le ruck-off, je suis assez d'accord. Après, ils ont des profils aussi à mettre en évidence. Hein. L'Australie, ils ont vraiment de très très bons gratteurs, ça c'est clair. Ça fait partie de leur force quand même à l'Australie d'avoir ce jeu au sol assez performant en défense.
Ça fait un moment.
Ouais, ça fait un petit moment. Après, ouais, le Japon, encore une fois, moi je vais pas être sympa avec eux, mais pour moi, il n'y aura pas de match, hein, je vous le dis. Hein. si on joue à notre niveau, qu'on joue comme on joue depuis quelque temps, en tapant dans un premier temps avec des avants perforants qui se déplacent. Enfin, je vois pas comment le Japon peut nous surprendre. Attention peut-être à la possession, voilà. Attention au rythme qu'ils peuvent mettre. C'est une équipe, si elle a la possession, elle va mettre beaucoup de rythme. Et ça, c'est la culture du Japon, mettre énormément de temps de jeu. Ils ont une capacité quand même de conservation qui est intéressante et de vitesse de jeu qui est intéressante. Maintenant, devant, comme a dit Arthur, pour moi, je vais manquer d'humilité parce que je suis un bon Français, mais il n'y aura pas de match. Hein.
Il faut être chauvin.
En tout cas, voilà, je peux me tromper. Encore une fois, c'est du sport, c'est ça qui est bien, c'est qu'à tout moment, on peut. Mais là, il n'y a pas. Enfin, si on déconne pas, il n'y a pas match. Et derrière, ça peut faire quelque chose de costaud aussi pour nous. Hein, donc, je suis pas forcément inquiet sur ce match-là. C'est un match qui va être différent des deux autres, ça c'est sûr. Mais on doit avoir la capacité et en plus. Tout ce qu'a énuméré Arthur et de manière vraiment très juste, ça sera travaillé cette semaine à l'entraînement. Hein. Vous avez un staff qui est ultra compétent et qui a décelé hein, depuis 2 matchs qu'on était un petit peu en difficulté sur notre conservation. Et là, je pense qu'il va y avoir un petit coup de détail toute la semaine sur cette phase-là.
Tu peux aller chercher aussi, pour poursuivre sur ce que dit Pascal, un peu plus d'efficacité dans les zones de marque. Sur les pénalités aussi, ça n'a pas été très satisfaisant parce que l'Australie se fait pénaliser 5 fois et la France 9. Donc là-dessus, tu peux aller chercher aussi plus de discipline, mais encore une fois, ça reste des ajustements à la marge. D'ailleurs, peut-être l'occasion de parler de ce championnat des nations qui, au final, on en discutait, Roxane, sur le premier podcast. Faut aussi peut-être commencer à lui rendre hommage tout doucement, puisqu'il redonne aussi peut-être un peu plus d'intérêt à ces matchs-là, un peu plus de compétitivité, là où les années précédentes. Est-ce que Fabien Galthié aurait pu envoyer peut-être une équipe un petit peu moins forte, avec un petit peu moins de cadres, plus de jeunes? Là, en fait, on s'aperçoit qu'il va y avoir quelques changements, mais au final, on va se rapprocher d'une équipe type sans les gros absents, évidemment. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'on va avoir le droit, je pense, à un gros match, parce que l'exigence est aussi à son paroxysme de la part du staff de l'équipe de France.
Tu penses qu'on ne donne pas assez sa chance aux plus jeunes ou ça te convient qu'on mette aussi une équipe quasiment type sur ce genre de match?
C'est une autre manière d'aborder ces matchs d'été. Vu qu'évidemment, il y a un enjeu à la clé, on n'est pas forcément tenté de trop faire tourner, entre guillemets, et plus d'aller chercher des changements qui vont améliorer ton équipe par rapport à la vision du staff. Donc non, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que la Coupe du Monde, ça reste dans un peu plus d'un an. Et que là, on n'est plus en train de tester des joueurs, mais plus de chercher des automatismes, de les améliorer, d'aller chercher encore un peu plus d'exigences, etc. Donc au final, ça se rapproche de la logique de ce que veut le staff, et ce qu'ils annoncent depuis quelques années. Donc il y a une certaine logique là-dedans, et on devrait voir, je pense, oui, du très beau rugby de la part de nos Bleus contre le Japon.
D'autant, Pascal, que c'est un peu une sorte de répétition générale, ce déplacement-là en Australie, c'est là où on va jouer la Coupe du Monde à Brisbane, on aura un match contre le Japon, justement. C'est important aussi d'aller prendre ses repères sur place, aussi avec des joueurs qui seront potentiellement, même sûrement, alignés sur le 15 titulaire pendant ce mondial.
Complètement, complètement. Nous, en 2010, on avait fait une tournée très longue en Nouvelle-Zélande où on avait eu deux tests, mais on était parti trois semaines avant le premier test, donc on avait fait un mois et demi et puis on avait terminé en Australie. Mais la Coupe du Monde en 2011 était aussi en Nouvelle-Zélande, et c'est vrai que ça avait été un choix juste de la part du staff de finalement créer un mini événement en Nouvelle-Zélande pour vraiment s'acclimater, connaître aussi le pays, la population, avoir ses repères. On a été à Dunedin et à Auckland, hein, donc oui, c'est, je pense que c'est bien pour les joueurs qui seront sélectionnés, parce qu'encore une fois, quand tu connais un stade, quand tu connais une ville, quand tu connais le stade d'entraînement, c'est des choses que tu découvres plus et qui finalement te permettent de gagner un peu de temps, même si ça reste que du détail. C'est des choses qui sont quand même importantes.
Oui, on sait en plus qu'à ce niveau-là, le détail compte énormément. Donc c'est vrai que ça reste important de prendre des repères. Merci, messieurs, d'avoir partagé ce podcast ensemble. On se donne rendez-vous du coup samedi pour le prochain match des Bleus, donc contre le Japon au Japon. Ça sera le dernier match de ce championnat des nations pour nos Bleus. Et puis, on aura tout un été pour se reposer et repartir pour une belle saison. Merci, messieurs. Passez une bonne journée à tous et à bientôt.
Merci à vous.
Salut.
Entre les poteaux.